c'était une élection très importante parce que jusque maintenant, M. Trump pour les Républicains et le sénateur Mme Clinton étaient en train de gagner pas loin. Et tout à coup, on arrive à Wisconsin et les candidats qui étaient numéro 2 ont gagné. Donc, on peut pas dire que les deux candidats, Trump et Clinton, sont en difficulté, mais nous commençons à croire que peut-être ils peuvent perdre. Donc, l'élection en Wisconsin, ça peut être un tournant dans la campagne.
Un tournant, c'est le seul État qui a voté ce mardi. Est-ce qu'il constitue un enjeu majeur dans la suite des primaires?
Ça peut être un tournant. Nous allons voir la prochaine élection. C'est important, c'est à New York. New York, il y a un grand nombre de délégués. C'est un État qui a, vers le nord, ils ont des républicains. Et dans la ville de New York, c'est très démocratique. Donc, on va voir. Si Sanders et Cruz gagnent à New York, donc c'est toute une autre histoire. L'élection peut basculer vraiment. Donc, c'est toujours très difficile de faire une prédiction pour qui va gagner. Mais je crois que tout est en jeu. Avant, aujourd'hui, tout le monde dit « Trump, c'est gagnant, Clinton, c'est gagnant ». Maintenant, on ne peut plus dire ça.
Oui, mais côté démocrate, Clinton consolide une large avance par rapport à Sanders. Et quand Sanders gagne, ce n'est pas vraiment un grand écart.
Il ne faut pas oublier que la lutte est pour les délégués. Quand les gens arrivent au congrès des deux partis, c'est le nombre de délégués qu'ils ont gagné dans chaque État. Donc, si vous regardez aujourd'hui, après Wisconsin, les numéros 2, M. Cruz et Sanders, ne sont pas tellement loin. Donc, ils ont toujours une chance. Quant à moi, je crois que Mme Clinton et M. Trump doivent toujours gagner, mais c'est moins sûr maintenant qu'avant.
Oui, M. Cohen, les élections sont toujours subjectives. Vous avez suivi les discours des vainqueurs. Vous connaissez aussi le programme d'autres candidats, notamment Clinton et Trump. Qui, selon vous, répond le mieux aux souhaits du peuple américain?
Je crois que M. Sanders, j'ai vu son discours de gagnant juste maintenant et à la télé, et il était entouré de jeunes, des gens qui... l'État de Wisconsin a beaucoup d'étudiants universitaires, et il était entouré de ces gens-là. Donc, son message est pour ces gens-là, des jeunes qui disent il n'y a plus d'espoir de faire mieux que nos parents, parce que il y a les salaires qui sont toujours en baisse, il y a la concurrence des pays où le main-d'œuvre coûte moins cher, comme le Mexique, comme la Chine. Je crois que nous sommes exploités par les gens très riches, par Wall Street, des gens comme ça. Donc, le message de Sanders est pour les jeunes. Nous allons casser le monopole des billionnaires aux États-Unis. Sur l'autre côté, le message de M. Cruz, qui est très à droite dans la politique, lui dit le gouvernement est trop grand. Il faut réduire le gouvernement. Il faut réduire les impôts. Il faut laisser l'argent dans les poches des contribuables. Donc, c'est tout à fait des contrastes. Ted Cruz, tout à fait à droite. M. Sanders, tout à fait à gauche. Il n'y a pas de centrisme dans cette élection.
Le discours radical de Ted Cruz ou de Donald Trump est-il en phase avec les Américains pour battre les démocrates aux élections générales?
À mon avis, non. Je crois que Trump et Cruz parlent à une certaine couche de la population, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait plus que les diplômes secondaires, qui sont plus âgés que 55 ans, qui n'ont pas beaucoup d'espoir d'avoir augmenter leur niveau de vie parce qu'ils ont vu beaucoup de leur travail passer vers le Mexique, au Chine. C'est cette couche de la population qui écoute Cruz et Trump. Et aussi, il y a un élément de xénophobie parce que Trump dit qu'il y a beaucoup d'immigrants mexicains aux États-Unis sans papier. Ils sont des illégaux. Il faut les chasser dehors. Et Cruz dit la même chose. Donc, c'est un peu l'élément de xénophobie mélangé avec un manque d'espoir économique. Tandis que Sanders et Clinton, ils disent il faut que le gouvernement fasse plus. Il faut qu'il y ait assurance santé pour universelle, pour tout le monde, comme vous avez en Europe de l'Ouest, dans tous les pays. Et il faut augmenter le salaire minimum. Donc, il parle aux jeunes, aux gens qui ont besoin d'un espoir pour l'avenir. Donc, c'est un grand contraste entre les deux côtés.
Est-ce que l'idée conservatrice radicale est en train de perdre du terrain aux États-Unis?
À mon avis, c'est oui. À mon avis. Et je parle moi-même comme quelqu'un de plus âgé qui était républicain dans le temps. Mais je crois que les conservateurs sont en train de disparaître lentement parce que ce sont des gens plus âgés. Tandis que les gens de gauche, les démocrates, sont plus jeunes, sont des universitaires, des professionnels, des gens dans l'industrie de technologie. Ce sont ces gens-là qui ont l'avenir devant eux, qui votent démocrate. Et donc, je crois que les démocrates doivent gagner.
Ce lundi, la Cour suprême a maintenu les règles de découpage électoral aux États-Unis, un échec des républicains qui voulaient changer les règles de jeu pour favoriser la majorité blanche. Est-ce la peur des républicains de ne jamais retourner à la Maison-Blanche?
Non, on ne peut pas dire ça, mais ils ont peur qu'ils vont perdre cette année parce que, pour toutes les raisons que j'ai données, ils ont déjà perdu les votes des deux grandes minorités aux États-Unis. Ça, c'est les hispanophones et les afro-américains. Ils ont déjà perdu les votes. Donc, l'afro-américain, ça représente 12% de la population et les hispanophones représentent 15%. Donc, déjà, vous avez 27% de la population qui vont sûrement voter démocrate cette année. Donc, c'est un grand handicap pour les républicains. Donc, dans tous les États où les républicains sont au pouvoir, les gouverneurs sont, ils essaient de limiter le droit de ces minorités de voter, de faire plus difficile pour ces gens de voter. Donc, pour l'élection primaire en Arizona, il y a 2 semaines, dans le quartier minoritaire, ils ont réduit le nombre de postes de vote. Donc, où il y avait 80 postes, la dernière élection, cette année, il y avait 20. Donc, beaucoup de gens devaient attendre 2, 3, 4 heures pour voter. Et beaucoup sont partis sans voter. Donc, si les républicains pensent qu'ils doivent réduire le vote de tous ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir pour gagner.
Il y a cette bataille sur la Cour suprême, le 9e juge, qui va l'emporter ou qui va perdre, selon vous? Est-ce la Maison-Blanche ou le Congrès majoritairement républicain?
La majorité au Sénat a décidé de ne pas voter avant l'élection. C'est-à-dire, ils ont un espoir qu'un républicain sera le prochain président. Donc, au lieu d'accepter un juge nommé par le président Obama démocrate, ils préfèrent attendre après l'élection avec l'espoir qu'un républicain sera élu et ce sera lui qui va choisir le juge pour remplir le poste vacant.
Est-ce que les républicains ne jouent pas gros parce qu'il y a des sondages qui montrent que les Américains veulent un vote au Sénat pour compléter la Cour suprême?
Oui, c'est un élément dans l'élection. Il y a certains gens qui sont furieux que le républicain dans le Sénat refuse de voter. Ils peuvent voter non, mais refuser de voter, c'est vraiment un péché. Donc, il peut perdre certains pourcentages de vote à cause de ça. Mais il croit que ça vaut la peine parce que s'il gagne la présidence, le prochain juge sera plutôt un homme de tendance conservateur.
C'est un juge nommé par un président démocrate, mais qui a été élu par les Américains. Le fait de refuser de permettre un vote, est-ce que ce n'est pas quelque part de l'humiliation contre tout le peuple américain?
Oui, je suis d'accord avec ça. C'est une humiliation. Ce sont des républicains qui sont cyniques. Mais ça, c'est la politique, n'est-ce pas? Si on peut essayer avec toute leur force d'avoir un juge républicain ou conservateur, il faut le faire, malgré le tort que ça fait aux républicains.